de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon le président du Liban, une enquête internationale sur les explosions de Beyrouth est une perte de temps. Le sénateur américain exhorte le gouvernement à supprimer les droits d'importation sur les produits alimentaires européens. La Colombo veut que l'Indonésie devienne un centre de coopération commerciale avec l'Indonésie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président libanais Michel Aoun a déclaré qu'une enquête internationale sur l'explosion du port de Beyrouth est une perte de temps. L'explosion qui a créé un cratère de 43 mètres de profondeur a tué près de 200 personnes. Aoun, tel que rapporté par Arabia lundi, a déclaré que l'objectif de l'appel à une enquête internationale sur l'affaire portuaire est de perdre de temps. Les tribunaux doivent agir rapidement pour identifier les ordres. Cependant, l'expert militaire russe Viktor Murakovsky a déclaré que la quantité de nitrate d'ammonium qui a provoqué l'explosion mortelle à Beyrouth devait être bien inférieure à l'approvisionnement initial. Il a déclaré que si la quantité totale de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium annoncé par les autorités libanaises explosées, cela effacerait Beyrouth de la carte. Le groupe de sénateurs des États-Unis a demandé au bureau de représentants américains au commerce de supprimer les droits d'importation de 25% imposés sur les produits alimentaires et les boissons de l'Union européenne depuis octobre 2019, selon la lettre consultée par Reuters lundi. Sept sénateurs républicains et six sénateurs du Parti démocrate, dans la lettre datée du 7 août 2020, a écrit que les restaurants, les détaillants, les grossistes et les importateurs et aussi les distributeurs connaissent de graves difficultés économiques en raison des droits d'importation élevés sur les produits alimentaires et boissons en provenance d'Europe. Les 13 sénateurs ont averti que la demande pour ces produits avait diminué, de sorte que les importateurs et les distributeurs devaient stocker une quantité égale de produits pendant plusieurs mois, la plupart périssables, dans les entrepôts et les ponts de transit. USTR n'a pas encore répondu à cette question. Le gouvernement colombien veut faire l'Indonésie le centre de la coopération commerciale dans son pays avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN, a déclaré lundi l'ambassadeur colombien en Indonésie, Juan Camilo Valencia González. La Colombie reconnaît le leadership de l'Indonésie en Asie du Sud-Est et ce pays veut que l'Indonésie soit son partenaire pour accroître l'exportation des produits dans la région. De plus, la Colombie estime que l'Indonésie remplit des critères pour devenir un centre de coopération commerciale entre les pays d'Amérique latine et l'ASEAN. Selon l'ambassadeur González, l'Indonésie a un taux de croissance économique stable, un grand nombre de consommateurs et un climat politique et d'investissement propice. Par conséquent, il espère que l'Indonésie a le même désir, à savoir faire de la Colombie le centre de sa coopération commerciale en Amérique latine. Il expliquait que la Colombie avait plus de 16 accords commerciaux en vigueur, ce qui permettait à l'Indonésie de distribuer plus facilement ses produits à plus de 16 pays et à près de 1,5 milliard d'acheteurs. La Colombie a également 15 accords internationaux d'investissement et 12 accords de coopération fiscale avec les principaux pays partenaires commerciaux pour ouvrir la voie à l'investissement étranger. Les autorités vietnamiennes signalent 31 cas de coronavirus par jour sur son territoire. Le nombre total de cas de coronavirus au Vietnam s'accélère à jusqu'à présent, dépasse les 800 avec 13 décès, comme rapporté par Reuters et le média local VN Express International lundi. Tous les nouveaux cas sont toujours liés à la ville de Da Nang, qui est le siège de l'épidémie de la nouvelle corona depuis le 25 juillet. Selon le ministère de la Santé du Vietnam, jusqu'à présent, 355 cas sont apparus à Da Nang. Depuis lors, des cas de corona ont été détectés dans au moins 15 endroits différents au Vietnam. Les autorités vietnamiennes ont également signalé 2 décès supplémentaires lundi matin, heure locale. Ainsi, jusqu'à présent, 13 personnes au total sont décédées à cause du coronavirus au Vietnam. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche a déclaré qu'il était prêt à émettre un budget supplémentaire de 474,9 milliards rupiah en 2020 pour aider à accélérer la reprise économique nationale et devenir un secteur principal pour surmonter l'impact de la pandémie. Le ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, M. Edi Prabowo, à Jakarta, estime que le secteur de la marine et de la pêche sera le secteur qui remportera la bataille contre la pandémie COVID-19. Selon lui, actuellement, la gestion marine n'est pas trop optimale et représente environ 10% de l'autonomisation de tout le potentiel existant, même si l'Indonésie est le pays avec la deuxième plus longue ligne dans le monde. Il estime que la gestion effective des mers de l'archipel n'est pas trop difficile parce que l'Indonésie a déjà un potentiel, à la fois dans les domaines des ressources humaines, de la technologie et de sa propre nature. Pour atteindre l'objectif national de mix énergétique renouvelable, PT Pertamina a alloué des fonds pour le développement des énergies nouvelles et renouvelables de 17,6 milliards de dollars jusqu'en 2026. Lors d'une discussion virtuelle à Jakarta lundi, la présidente directrice de Pertamina, Mme Nike Widiawati, a déclaré que la dernière réalisation en 2019, le mix énergétique a atteint 9,15%. À la même occasion, le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Arifin Tasrif, a déclaré que l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables ne représentait que 2,5% du potentiel total existant. M. Arifin Tasrif a déclaré que le potentiel total des énergies nouvelles et renouvelables en Indonésie atteint 417,8 gigawatts, Cependant, sur la base des données existantes, 10,4 gigawatts peuvent être utilisés ou 2,5%. Ces divers potentiels comprennent l'énergie océanique, l'énergie géothermique, la bioénergie, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et l'énergie solaire. Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales a noté que la réalisation d'un mix énergie nouvelle et renouvelable jusqu'au premier trimestre de cette année n'atteint que 11,51% de l'objectif du gouvernement de 23% en 2025. L'aéroport international Igusti Ngurah Rai de Bali a enregistré 4 871 017 passagers et 38 738 mouvements aéronefs à destination et en provenance de Bali au cours de la période janvier-juillet 2020. Directeur général de l'aéroport international PT Angkasa Pura I, Igusti Ngurah Rai Heri Sukado, dans sa déclaration reçue à Badung, Bali, lundi, a déclaré que le nombre de passagers et de mouvements aéronefs était encore loin de l'année dernière, 2019. Au cours de la même période l'an dernier, l'aéroport de Ngurah Rai a servi jusqu'à plus de 13 millions de passagers qui ont été transportés via mouvement d'avion. Ainsi, le nombre de passagers a diminué de 63,6%, quand au mouvement aéronef, ils ont diminué de 55,8% par rapport à la période janvier-juillet 2019. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, l'essai clinique de troisième phase du vaccin COVID-19. Des candidats au vaccin COVID-19 fabriqués par la société pharmaceutique chinoise ou Sinovac ont été injectés dans les corps de volontaires en Indonésie aujourd'hui, mardi le 11 août 2020. L'injection initiale de volontaires a été effectuée dans 6 endroits de Bandung, entre autres l'hôpital éducatif de l'Université de Pajajaran, le campus de l'Université de Pajajaran de Dipati Ukur et 4 centres de santé communautaire ou puskesmas. Le président Joko Widodo, le ministre des entreprises publiques, en tant que directeur général de l'équipe de contrôle de COVID-19 et de la reprise économique, Eric Thohir, le chef du groupe de travail sur la gestion de COVID-19, Denis Monardo, ont assisté à l'injection qui faisait partie d'une série d'essais cliniques de troisième phase. Ces nouvelles sont certainement des informations passionnantes pour l'Indonésie. De plus, cette troisième étape d'essai clinique peut être réalisée plus rapidement que l'objectif initial qui se tiendra en septembre 2020. Le ministre Erick Thohir a déclaré que l'injection du vaccin COVID-19 est importante car elle sera un facteur déterminant. Auparavant, le président-directeur de Bio Pharma, Honesty Bashir, a déclaré que si la troisième phase de l'essai clinique du vaccin COVID-19 se déroule bien, PT Bio Pharma le produirait au premier trimestre de 2021. PT Bio Pharma a préparé des installations de production d'une capacité de production maximale de 250 millions de doses. Si cet essai clinique réussit en janvier-février 2021, l'Indonésie commencera à injecter 30 à 40 millions de vaccins. Le succès de l'essai clinique de troisième étape du candidat vaccin de COVID-19 ne peut être séparé de la volonté de 1620 volontaires qui sont devenus des sujets. Ils ont de 18 à 59 ans. La moitié d'entre eux recevront le vaccin COVID-19 et les autres recevront une injection de placebo. Pendant la période de recherche, Les volontaires continueront d'être surveillés et ne seront pas autorisés à quitter la ville de Bandung. La découverte rapide du bon vaccin pour arrêter l'attaque du nouveau coronavirus est certainement de grands espoirs pour nous tous. En effet, pour connaître les résultats des essais cliniques du vaccin COVID-19, les Indonésiens doivent attendre 6 mois. En attendant les résultats, chaque citoyen indonésien peut apprécier les efforts de l'État, du gouvernement, des chercheurs et des bénévoles pour produire le vaccin de COVID-19. Ainsi, les Indonésiens doivent obéir au protocole de santé établi en portant des masques, en se lavant les mains et en maintenant une distance physique. Même s'ils ne sont pas directement impliqués dans le programme de production de vaccins, leur obéissance au protocole de santé a grandement contribué à briser la propagation de la chaîne de COVID-19. Tous les Indonésiens doivent coopérer et veiller à ce que la reprise de la santé et de l'économie indonésienne puisse être réalisée simultanément. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020, sur le thème « L'Indonésie va de l'avant ». La longévité pour la République indonésienne.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Hussein monte sur le trône de Jordanie le 11 août 1952. Hussein bin Talal a été roi de Jordanie pendant plus de 46 ans, du 11 août 1952 au 7 février 1999, et l'un des chefs d'État les plus longs au pouvoir exécutif au monde. Hussein bin Talal a succédé au roi Talal, son père, le 11 août 1952. Le roi Hussein est décédé en 1999 et a été succédé par son fils Abdullah. L'autre information est l'explosion d'une bombe dans un avion de Pan American World Airways le 11 août 1982. Une bombe a explosé dans un avion appartenant à la compagnie aérienne Pan American World Airways lors d'un voyage entre le Japon et Hawaï. Malgré le dégât, l'avion a réussi à atterrir à Honolulu. L'incident a tué un passager et en a blessé 16 autres. Mohamed Rachid, un Jordanien associé à l'organisation du 15 mai, on l'a accusé d'être responsable de l'attaque. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement le 11 août 2003, le terroriste Hambali a été arrêté en Thaïlande. Hambali, qui est soupçonné d'être impliqué dans le terrorisme en Nazi du Sud-Est, était arrêté en Thaïlande le 11 août 2003 et détenu en Jordanie, puis déplacé à la prison des États-Unis dans le camp de détention de la baie de Guantanamo au Cuba. Hambali a eu un rôle important dans les événements sanglants de l'attentat de Bali en 2002, qui a détruit Sari Club El Bar Padi le 12 octobre 2002, a tué 102 personnes, y compris 98 Australiens. Trois principaux auteurs des événements sanglants, Amrozi, Mouhlas et ses frères et Imam Samudra, ont été condamnés à mort en prison Nusa Kambangan, Central Java, en novembre 2008. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Dalam bayanganmu terlalu lama.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie intitulée La Belgique apprécie les exportations de meubles et de l'industrie des produits forestiers légaux et durables de l'Indonésie. Afin d'intensifier les défis et les opportunités d'exportation du bois et des produits du bois vers l'Union européenne, surtout vers la Belgique, l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, en collaboration avec le Forum de communication de la communauté forestière ou FKPMI, a organisé la réunion commerciale virtuelle Indonésie-Belgique sur les produits du bois et meubles le mercredi. Cité de la page kamlu.go.id, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, M. Sulaiman Sharif, a déclaré que les accords de partenariat volontaire sur application des lois forestières, la gouvernance et le commerce et le grand engagement de l'Indonésie à créer des solutions pour exploitation forestière illégale, promouvoir le commerce le bois légal et assurer la durabilité du système de légalité du bois d'Indonésie. Du côté gouvernemental, une coopération étroite est nécessaire pour garantir que l'Union européenne puisse fournir des incitations commerciales conformément à l'accord. Cependant, du milieu des affaires, il existe des opportunités à travers la diversification des exportations. À l'origine, axée sur le bois dur ou le bois de qualité supérieure, pour passer à l'exportation de produits dérivés de résineaux ou de bois de qualité moyenne. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises ont une grande occasion de jouer un rôle dans l'augmentation des exportations. Le président de l'Association des entrepreneurs forestiers indonésiens, M. Indroyono Susilo, qui est également le président du Forum de communication de la communauté forestière, a déclaré que les marchés de l'Union européenne et de la Belgique ont le potentiel afin d'exporter des produits du bois. L'Union européenne est le quatrième plus grand marché qui reçoit les exportations de produits de bois d'Indonésie après la Chine, le Japon et les États-Unis. La valeur des exportations de produits de bois d'Indonésie vers l'Union européenne en 2019 était 1,071 milliards de dollars américains. Cependant, les exportations totales de l'Indonésie dans le monde en 2019 s'élevaient de 11,6 milliards de dollars américains. Représentant de l'Association des entrepreneurs belges de l'industrie du bois et de meubles, Alexander de Groot a déclaré que l'Indonésie avait un avantage comparatif avec la certification de l'application des lois forestières, la gouvernance et le commerce dans chaque produit de bois forestier originaire d'Indonésie. Cette certification aide les importateurs de bois en Belgique et dans l'Union européenne à identifier et garantir que les produits de bois originaires d'Indonésie ne sont pas le résultat d'une exploitation illégale qui nuit aux forêts. Les produits indonésiens certifiés sont également le résultat d'une gouvernance forestière durable. Philippe Delhaes de Ethnicraft a déclaré que son entreprise employait au moins 1400 personnes à Jepara, dans le centre de Java. Il expliquait que pendant la pandémie de COVID-19, les Belges et l'Union européenne étaient plus susceptibles d'embellir leurs maisons en achetant des panneaux de bois ou des meubles en bois que de voyager pour des vacances. C'est une opportunité pour les exportateurs de bois et de produits de bois indonésiens. À l'avenir, on espère que l'Union européenne pourra réaliser ses engagements. Le soutien dont l'Union européenne a besoin comprend des politiques d'enchères gouvernementales et privées qui reconnaissent l'application des lois forestières, la gouvernance et le commerce comme une certification légale du bois. En outre, le gouvernement indonésien s'est engagé à garantir l'importance de promotion dans les appels d'offres publics et privés, reflète dans les négociations de l'accord de partenariat économique global, ou CEPA, entre l'Indonésie et l'Union européenne. Chers amis, c'était la rubrique « Mon Indonésie » de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Thank you.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel en produisant la plage Madasari. Pangandaran est une région à Java Ouest, directement adjacent à l'océan Indien au sud. Cette région est dotée de plusieurs belles plages. L'une d'entre eux, la plage Madasari. La plage Madasari est située dans le village Massawa, dans le district Cimerak. Cette plage a un groupe de collines de corail rempli d'arbres et d'arbustes. Même s'il a un beau panorama, malheureusement, vous ne pouvez en profiter que depuis la plage ou du haut d'une des collines de corail, car les vagues sont assez grandes et mettront en danger les visiteurs. Il est donc souvent interdit de nager sur cette plage. La plage Madasari a des vagues assez grandes. Si vous souhaitez voir la beauté des vagues frapper les rochers, vous pouvez grimper sur l'une des collines de corail. Mais il faut être prudent et porter des chaussures confortables pour ne pas glisser. Une chose qui est unique dans les collines de la plage Madasari est que chacune d'elles porte un nom, à savoir Batu Gedogan, Batu Sebrotan, Batu Leit, Legok Gandu, Cariuk, et Pandan Nyampai. Si vous voulez profiter de la beauté de la plage depuis le rivage, il est bon de faire attention lorsque l'eau se retire car vous verrez des oursins. De plus, sur la plage Madasari, vous pouvez également profiter de la beauté du coucher de soleil. Si vous souhaitez également regarder le lever du soleil, vous pouvez camper dans la pelouse qui a été fournie. Lors de la visite de ce site touristique, vous pouvez également explorer les environs naturels.
Pour entrer à la plage Madassari, les prix des billets ne sont pas basés sur le nombre de visiteurs, mais sur les véhicules utilisés. Si vous marchez, le prix est 2500 rupias. Cependant, les motos coûtent 7000 rupias, les voitures 25 000 rupias, les petits bus 110 000 rupias et les grands bus 160 000 rupias. De Parigi, le centre de la capitale de Pangandaran, il est à environ 31 km en voiture. Certaines des attractions touristiques qui seront dépassées sont la plage Batu Karas et le Green Canyon. Parce qu'il est situé à proximité d'autres plages, après avoir voyagé à la plage Madassari, vous pouvez également visiter la plage Batu Karas et Green Canyon. Chers amis, c'était le magazine culturel.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Vous êtes avec moi, Audrey. Cette rubrique, c'est un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue et du livre du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est musique apa itu? Musique apa itu? En français, c'est quelle musique? Cher ami, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation et un pourtitre musique apa itu. Musique apa itu. En français, c'est quelle musique? La situation est au studio de danse. Kevin a vu des gens jouer au gamelan pour accompagner la pratique de la danse des étudiants. Kevin a demandé à City quelle musique il jouait. Bonne écoute.
Apa nama alat musik itu?
Oh, itu gamelan.
Gamelan, alat musik dari mana?
Gamelan itu alat musik tradisional dari Jawa Tengah.
Chers amis, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire les expressions et le vocabulaire reliant au thème d'aujourd'hui. Musique apa itu? Musique apa itu? En français, c'est quelle musique? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez me répéter. Bonne écoute. Apa nama alat musik itu? Apa nama alat musik itu? En français, quel est le nom de l'instrument? Oh, itu gamelan. Oh, itu gamelan. Ah, c'est gamelan. Alat musik. Alat musik. En français, instrument de musique. Alat musik dari mana? Alat musik dari mana? D'où viennent les instruments de musique? Traditionnel. Traditionnel. En français, traditionnel. Chers amis, si vous souhaitez demander sur un objet, vous pouvez utiliser l'expression suivante. Apa nama? Apa nama? Patung, alat musik, dan lain-lain. En français. Cela veut dire quel est le nom de statue, instrument de musique et autres. En réponse à cette question, vous pouvez nommer l'objet en question, par exemple, apa nama alat musik itu? Apa nama alat musik itu? En français, quel est le nom de l'instrument de musique? Oh, itu gamelan. Oh, itu gamelan. En français, oh, c'est gamelan. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien pour aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons encore une fois l'exemple de la conversation. Bonne écoute.
Apa nama alat musik itu?
Oh, itu gamelan.
Gamelan, alat musik dari mana?
Gamelan itu alat musik tradisional dari Jawa Tengah.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Stop, bitch. bicara cinta jika hanya garitkan luka. Stop bicara rindu jika hadirmu tak terasa. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua. Kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Ku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop. Janji aku bukan prioritasmu. Stop bicara tentang masa depan kita tak jelas. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua. Kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Aku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri.
Stop, 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 stop.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et je vais vous présenter le magazine musical. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, dans cette édition, nous vous présentons une chanson malaise intitulée Senandung Perantau, chantée par Puspita Sari. Serge Litar, composée par Abah Ali, cette chanson raconte d'une personne qui quitte sa ville natale, quitte sa mère et ses jeunes frères et sœurs, et par erreur à la recherche d'une vie meilleure. Il espère que Dieu accordera toutes ses prières et pourra bientôt rencontrer sa famille. La chanson, dont le tempo est lent, utilise la langue malaise sambas. Le malaise sambas est une langue malaise qui s'est développée dans la région de Sambas, dans la province de Kalimantan de l'Ouest. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Senandung Perantau, chanson des nomades, chantée par Puspita Sari. Bonne écoute.
Oh,
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.